Vous écoutez, on lit pour vous.
Des forêts brûlées, ensemencées par drones. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse. L'idée paraît simplissime. Et si on saupoudrait, du haut des airs, un peu de semences d'épinettes sur les cendres d'un territoire incendié pour retrouver une belle forêt de conifères? Et ce, sans avoir à marcher des kilomètres dans la forêt, des cassettes d'arbres sur les épaules et des mouches noires tout autour de la tête. Beaucoup pensent que les drones, c'est super et qu'on va régler le sort du monde avec ça. S'amuse Yann Boucher, professeur en écologie et aménagement forestier et directeur de l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale, affilié à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais il y a aussi des défis. Au début de juin 2025, son équipe et lui se sont rendus au nord de Chibougamau, au sud du Grand Lac Mistassini, dans une zone rasée par les incendies de 2023. Mission : observer la technique d'ensemencement par drone. C'est la première partie d'un grand projet de recherche qui évaluera, sur une longue période, l'efficacité de cette technologie de plus en plus utilisée dans les forêts dans le monde, qu'elle soit amazonienne, australienne ou boréale. Mais cette technologie est très récente et son efficacité a été très peu mesurée, dit le chercheur. Chacune des entreprises d'ensemencement par drone a sa recette, mais la technique est essentiellement la même. Il s'agit de disperser des capsules qui contiennent, en plus des semences de conifères, des additifs qui contribuent à la rétention d'eau et un mélange de minéraux, nutriments et bactéries en guise de substrat de croissance. Le concept semble fort prometteur et Yann Boucher ne le contredit pas. Mais il veut voir de ses propres yeux, sur le terrain et dans les tableaux de données, quelle est l'efficacité de la technique pour reboiser le territoire. Il n'est pas certain à 100% que toutes ces capsules vont germer et produire des arbres, dit-il. C'est pour ça qu'on fera un suivi sur une période de 5 ans. Trois technologies, employées par trois entreprises différentes, seront évaluées pour en tester l'efficacité. Et par la suite, on pourra dire au gouvernement du Québec si ces technologies sont adéquates, notamment pour remplacer le travail des gens qui plantent des arbres. La course à la repousse. 2 ans dans la vie d'une forêt de conifères, c'est bien peu. Mais le temps presse quand même pour reboiser les territoires rasés en 2023, dit Yann Boucher. Si les conifères ne s'enracinent pas, d'autres végétaux, dont les plantes de la famille des éricacées, comme le thé du Labrador ou les bleuets, prendront leur place. Plus on attend, plus c'est problématique et plus c'est coûteux, dit le chercheur. L'idéal, c'est de reboiser le plus tôt possible après l'incendie. Pour augmenter les chances que les capsules relâchées par les drones donnent naissance à de petits conifères, il faut faire une évaluation minutieuse des sols qui seront survolés. C'est d'ailleurs ici que les pilotes de drones forestiers auraient avantage à consulter les chercheurs qui ont étudié le territoire. Quand il a accompagné une première équipe sur le terrain, en juin, Yann Boucher a constaté que le terrain des zones survolées n'était pas toujours propice au reboisement. On savait que dans ces secteurs, il faudrait d'abord travailler le sol avant d'ensemencer. Semer des conifères au lieu de planter les pousses qui ont déjà 3 à 5 ans d'âge, ne retarde-t-il pas le reboisement? En effet. Mais on épargne tous les coûts associés à la production des plants en pépinière, souligne M. Boucher. Sans parler du défi du recrutement de la main-d'œuvre pour le travail de plantage. Le drone a également l'avantage de pouvoir survoler des zones inaccessibles pour les planteurs. La technologie est cependant gourmande en semences, puisqu'il faut en disperser un grand nombre pour arriver à un taux de survie comparable à celui du plantage. Environ 50 000 hectares de forêt sont reboisés à la main chaque année au Québec. En 2023 seulement, plus de 4 millions d'hectares sont partis en fumée. Vous comprendrez qu'on n'a ni les gens ni les sous pour faire tout ce reboisement, dit M. Boucher. C'est pourquoi on regarde différentes technologies en fonction des secteurs qu'on a à reboiser. De la place pour le pin gris. Un autre virage important du reboisement post-2023 est l'intérêt porté désormais au pin gris. Ce grand conifère a la particularité de se reproduire grâce aux incendies de forêt. À partir de 10 ans d'âge, contrairement à 25 ou 30 ans pour l'épinette noire, le pin gris produit des cocottes protégées d'une couche de résine. Lorsque le feu embrase l'arbre, la résine fond et libère les semences qui tombent au sol et qui profiteront du soleil pour repousser. Mais le pin gris, contrairement à l'épinette noire, n'est pas l'essence préférée des sociétés forestières. Il produit de la pâte à papier plutôt médiocre. Sa valeur est ailleurs, dit Yann Boucher. C'est le pin gris qui protège l'état forestier, qui prévient les accidents de régénération à grande échelle. Planter seulement de l'épinette noire dans des secteurs vulnérables aux incendies de forêt, c'est une très mauvaise idée, dit le chercheur. On a justement visité des secteurs qui avaient brûlé en 2005, puis en 2023. Le pin gris avait brûlé en 2005 et s'était régénéré à temps pour le feu de 2023. Si on avait eu de l'épinette noire, je peux vous assurer qu'il n'y aurait eu aucune régénération. En savoir plus, nombre d'hectares brûlés au Québec, source, Sopfeu, en 2023, 4,5 millions. En 2025, à ce jour, environ 6 600. C'était des forêts brûlées ensemencées par drone. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse.
Les femmes sont-elles vraiment plus sensibles au froid? Un texte de Carrie Arnold paru le 2 du 11e mois 2025 dans National Geographic. Avez-vous tendance à avoir très chaud ou êtes-vous constamment gelé? Découvrez ce que la science dit sur ce phénomène et ce que ça signifie pour votre santé et votre productivité. Cette photographie thermique montre que la main de la femme est plus froide que celle de... Cette photographie thermique montre que la main de la femme est plus froide que celle de l'homme. Des études suggèrent que les femmes sont plus sensibles au froid que les hommes, mais c'est plus une histoire de composition corporelle que de genre. Même quand les températures à l'extérieur ne cessent d'augmenter, de nombreux employés de bureau ne se séparent pas de leurs pulls ou manches longues. Plutôt que des shorts et des sandales, le froid excessif à l'intérieur des lieux de travail est synonyme de chauffage de poings, de chaussettes moelleuses. Si le phénomène a donné lieu à un nombre infini de vidéos TikTok amusantes, le sujet est moins léger qu'il n'y paraît. Si les gens ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas travailler au maximum de leur capacité, explique Thomas Chang, économiste d'entreprise à l'Université de Caroline du Sud. Cela semble évident au point de paraître idiot, mais c'est le résultat de nos recherches. Les travaux de Thomas Chang et d'autres chercheurs ont montré que les femmes ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque la température est plus chaude, contrairement aux hommes. Et ce n'est pas seulement dans les bureaux. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, à la maison ou au travail, des études ont démontré que les femmes sont plus sensibles au froid. Selon Thomas Chang, cela peut s'expliquer en partie par les différences de tenue vestimentaire. Si vous devez porter un costume trois pièces avec cravate sur votre lieu de travail, vous aurez plus chaud que si vous portez une robe d'été et des sandales. L'autre raison, c'est que les femmes brûlent en moyenne moins de calories au repos que les hommes, ce qui crée moins de chaleur interne. Toutefois, ce n'est peut-être pas si simple. Une étude publiée en avril 2024 dans les Proceedings of the National Academy of Science a révélé que la taille et la composition d'une personne étaient plus importantes que son genre pour déterminer le moment où elle commence à avoir froid. Comment votre taux métabolique détermine votre température corporelle? Comme d'autres animaux à sang chaud, l'homme dépense beaucoup d'énergie et d'efforts pour maintenir sa température corporelle à un niveau convenable. De nombreuses espèces modifient leur comportement pour s'adapter aux températures extrêmes, par exemple en devenant nocturnes pour faire face à la chaleur du désert ou en se dotant d'une épaisse fourrure pour survivre à un hiver glacial. Mais tout comme les êtres humains varient en taille et en forme, nous varions également dans notre estimation de la température idéale. Certaines personnes se sentent à l'aise en short et en sandales, même en hiver, alors que d'autres ont invariablement froid sans chapeau ni pull. Nos préférences en matière de température extérieure sont directement liées à l'intensité de notre métabolisme. Les personnes ayant une masse musculaire plus importante et un corps plus large ont tendance à brûler plus de calories au repos que les personnes plus petites. Et si la graisse est isolante, elle peut également empêcher la chaleur générée d'atteindre les extrémités du corps. En conséquence, les préférences en matière de température peuvent être quelque peu sexuées, explique Boris Kingma, chercheur en performance thermique humaine à l'Institut néerlandais de technologie appliquée. Mais il précise que ce n'est pas aussi simple que « les femmes préfèrent les environnements plus chauds ». D'une part, il souligne l'énorme chevauchement des températures idéales entre les hommes et les femmes. Les différences qui existent sont assez subtiles, selon Kingma. D'autre part, notre température préférée varie en fonction de notre niveau d'activité et de nos vêtements. Pour Kinga, le genre de ces variables fait une plus grande différence que le métabolisme. Les données de la récente étude PNAS confirment ces résultats. Une équipe de scientifiques des National Institute of Health a constaté que l'interaction entre le taux métabolique, la surface corporelle et le pourcentage de graisse corporelle étaient déterminantes pour l'estimation de la température idéale d'une personne. Si vous avez un taux métabolique similaire, peu importe que vous soyez un homme, une femme, une personne âgée ou autre, vous préférez le même environnement, explique Boris Kingma. Comment la température affecte votre corps? L'intérêt de Thomas Chang pour la relation entre la température et la productivité des travailleurs a commencé lorsqu'il a commencé à travailler dans un bureau où il faisait trop chaud. Il a opté pour autant de changements que possible. Manches courtes plutôt que longues, café glacé plutôt que chaud, mais rien n'a changé le fait qu'il avait trop chaud pour se concentrer sur son travail. Au bureau, Chang ne pensait qu'à des moyens de se rafraîchir. « Cela n'est pas surprenant », estime Boris Kingma, car le fait de devoir générer ou dissiper un excès de chaleur corporelle est physiquement stressant. Lorsque vous avez trop chaud, les vaisseaux sanguins des extrémités de votre corps se dilatent pour lui permettre de libérer plus de chaleur. Si cela ne suffit pas, on commence à transpirer. A contrario, l'exposition au froid fait se contracter les vaisseaux sanguins des mains et des pieds pour empêcher la perte de chaleur. Si la température corporelle descend trop bas, les frissons peuvent aider à produire la chaleur nécessaire. Les deux extrêmes nécessitent une production d'énergie supplémentaire, explique Kingba. Si l'hypothermie et les gelures surviennent lors d'expositions excessives au froid, des affectations comme la maladie de Raynaud se manifestent dans des conditions moins extrêmes. La maladie de Raynaud se manifeste par des spasmes des petits vaisseaux sanguins des doigts et des orteils qui donnent aux extrémités une teinte blanche ou bleue. Elle touche de manière disproportionnée les femmes et les personnes vivant dans des climats froids et est considérée comme une forme extrême de sensibilité au froid. Cette affectation est réversible en cas de réchauffement, mais elle peut être inconfortable. Au fil du temps, l'homme a mis au point des stratagèmes pour s'adapter à certains climats parmi les plus extrêmes de la planète. Le feu et les fourrures d'animaux pour se réchauffer au début de son histoire, jusqu'aux options de haute technologie telles que les tissus thermo-isolants et les vestes chauffantes alimentées par des piles permettant aux humains de vivre presque n'importe où. La seule raison pour laquelle l'homme a pu peupler la planète est sa capacité à s'adapter à l'environnement grâce à la technologie, estime Boris Kingma. Et cette technologie ne se limite pas à la climatisation, souligne-t-il. Bon nombre de ces technologies ne sont pas destinées à maintenir les humains à la température parfaite, mais plutôt à veiller à ce qu'ils ne se réchauffent pas ou ne se refroidissent pas dangereusement. Comment la température affecte votre productivité? Thomas Chang voulait savoir dans quelle mesure le stress lié au fait d'avoir trop chaud ou trop froid affecte la productivité. En collaboration avec Anya Kajakait du WZB Berlin Social Science Center en Allemagne, ils ont mené un test sur un groupe d'étudiants allemands afin d'estimer leur capacité à travailler lorsqu'ils avaient trop chaud ou trop froid. Ils ont constaté que les étudiants obtenaient de meilleurs résultats dans les tâches verbales et mathématiques lorsque les températures étaient plus chaudes, mais les hommes obtenaient de meilleurs résultats lorsqu'il faisait plus frais. La différence était significative, bien qu'apparemment subtile, quelques points de pourcentage seulement. À première vue, ce n'est pas grand-chose, mais de nombreux managers aimeraient bien augmenter la productivité de leurs employés d'un tel pourcentage, affirme Thomas Chang. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vos employés sont à l'aise. Cela semble aller de soi, explique-t-il. Stefano Schiavone, architecte et ingénieur en environnement à l'Université de Californie à Berkeley, n'est pas convaincu. Il a mené une méta-analyse des études portant sur la relation entre la productivité et la température en compilant des données de 35 études distinctes, dont celle de Thomas Chang. Lorsqu'il a examiné l'ensemble des données, il a constaté que ce n'était qu'aux températures extrêmes que la productivité diminuait de manière significative. Si quelqu'un a un peu chaud ou un peu froid, cela n'a pas vraiment d'incidence sur ses performances, d'après lui. Mais, en fin de compte, la solution semble être simple. Il suffit de baisser l'air conditionné. Il s'agit d'une mesure d'économie de coût et d'énergie qui devient de plus en plus importante à mesure que la combustion des énergies fossiles réchauffe la planète, explique Schiavon. Régler la climatisation intérieure et permettre aux travailleurs de personnaliser leur garde-robe et leur espace de travail pour qu'ils puissent travailler à leur aise contribuerait grandement à résoudre les deux problèmes, ajoute-t-il. Nous utilisons beaucoup d'énergie coûteuse pour rendre les gens malheureux, déclare Chiavon. C'était « Les femmes sont-elles vraiment plus sensibles au froid ?» un texte de Carrie Arnold paru le 2 du 11e mois 2025 dans National Geographic.
L'art de bien vendre les pistes cyclables. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 2 octobre 2025 dans la presse. Bonne nouvelle, les Montréalais sont moins divisés qu'on le pense au sujet des pistes cyclables, ont constaté des chercheurs de l'Université McGill et de Polytechnique Montréal. En principe, les gens dans la grande région de Montréal sont largement en faveur de soutenir davantage le vélo comme moyen de transport. 71% estiment que le vélo devrait être plus soutenu comme moyen de transport, contre 22% qui estiment qu'il devrait être moins soutenu, selon un sondage léger. C'est quand on dit aux gens qu'ils perdront des espaces de stationnement et des voies pour les voitures que l'appui baisse. Les chercheurs qui ont présenté leurs conclusions dans un colloque tenu à McGill, en collaboration avec Vélo-Québec, se sont essentiellement penchés sur les facteurs qui font en sorte que les gens à Montréal et à Laval sont pour ou contre de nouvelles pistes cyclables protégées, comme le réseau Express Vélo, REV. On pourrait penser que c'est un débat binaire, que les cyclistes veulent des pistes cyclables et que les non-cyclistes n'en veulent pas. Or, certains cyclistes sont opposés à la construction de nouvelles pistes, tandis que certains non-cyclistes y sont favorables. Premier constat, il sera à peu près impossible de convaincre tout le monde des bienfaits des pistes cyclables. En fait, 31 % des gens, 22 % des cyclistes et 37 % des non-cyclistes y seront probablement toujours réfractaires. Ils ne croient pas qu'une piste cyclable protégée augmente le nombre de déplacements à vélo, même si c'est un fait vérifié, étude après étude. À l'opposé, un autre groupe d'environ 40 % des gens sont favorables à de nouvelles pistes cyclables protégées, peu importe si on doit supprimer des espaces de stationnement ou des voies pour les voitures. Entre les deux, il y a environ 30 % des gens dont l'appui à de nouvelles pistes cyclables varie selon les circonstances. C'est sur ce groupe que les décideurs doivent se concentrer pour hausser l'acceptabilité du vélo. Il ne faut pas vouloir convaincre tout le monde, dit Jérôme Laviolette, chercheur postdoctoral au département de géographie à McGill et l'un des co-auteurs des études présentées fin septembre 2025. Ce qu'il faut, selon Jérôme Laviolette, c'est convaincre la majorité molle. Les gens qui ne s'intéressent pas tant que ça à la question, mais qui s'inquiètent par exemple à la transformation de leur rue. À Montréal et à Laval, seulement 44 % des gens acceptent de sacrifier une voie pour les autos afin d'aménager une piste cyclable. L'acceptabilité sociale est à 39 % quand il faut enlever des espaces de stationnement. La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs ont trouvé des façons de convaincre des indécis et des opposants soft. Ça ne sert à rien de les saouler avec des calculs de réduction de gaz à effet de serre, GES. Selon les chercheurs, il faut plutôt leur vendre les avantages concrets du vélo en faisant appel à leurs sentiments, selon la théorie des fondements moraux. Par exemple, il faut faire appel à leur sens de l'équité ou de la liberté. Le chercheur Jérôme Laviolette a ainsi plusieurs suggestions pour faire augmenter l'appui aux pistes cyclables dans la population. Premier conseil, insister sur les bénéfices des pistes cyclables sûres pour les enfants et les adolescents. Les deux groupes de cyclistes les plus importants. Tout le monde veut le bien-être des enfants, dit Jérôme Laviolette. Le vélo favorise aussi l'autonomie et l'activité physique chez les enfants. Il n'y a que des avantages. Deuxième conseil, insister sur la liberté de choisir son moyen de transport. L'un des politiciens québécois qui l'explique le mieux, c'est le maire de Québec, Bruno Marchand. En aménageant des pistes cyclables, on donne la possibilité aux gens de faire du vélo, de choisir le moyen de transport qui leur convient le mieux, résume Jérôme Laviolette. Troisième conseil, rappelez que le vélo est sous-financé comme moyen de transport et que c'est une situation inéquitable pour les cyclistes. On fait appel au sentiment d'équité. Même après 8 ans de Valérie Plante à la mairie, le vélo occupe 2 % de l'espace sur les routes, alors qu'il y représente 5 % des déplacements. L'auto occupe 98 % de l'espace et génère 95 % des déplacements sur les routes, selon une étude de l'Université McGill. Même si on doublait d'un coup le nombre de pistes cyclables, le vélo sera encore moins bien traité que la voiture. Jérôme Laviolette suggère aussi des façons efficaces de répondre aux 3 objections qui reviennent le plus souvent. 1. Les cyclistes ne paient pas de taxes. Les cyclistes sont aussi des contribuables qui paient des impôts sur leurs revenus et beaucoup d'entre eux sont aussi des automobilistes de toute façon. À Montréal, les pistes cyclables et les routes sont financées par les taxes foncières, que tout le monde paie, y compris les cyclistes. En 2025, la Ville de Montréal a investi 30 millions dans les pistes cyclables et 550 millions dans les infrastructures routières. Les dépenses liées au vélo représentent seulement 5 % de ce budget. 2. Les cyclistes sont dangereux. Un vélo est beaucoup moins dangereux qu'une auto. Les cas de cyclistes qui blessent des piétons sont anecdotiques. Or, en 2024 seulement, 80 piétons sont morts sur les routes au Québec en raison d'une collision avec une auto. Par surcroît, les cyclistes font moins d'infractions au Code de la sécurité routière quand ils ont une voie cyclable protégée, selon une étude danoise. « C'est plus ordonné si tout le monde a son espace à lui », dit Jérôme Laviolette. 3. Manque de stationnement et circulation difficile. C'est humain. Les gens réagissent toujours plus fort à une perte qu'à un gain. Il faut donc rappeler les avantages d'une piste cyclable. Si plus de gens peuvent choisir le vélo, ça fait moins de gens en voiture, dit Jérôme Laviolette. Une piste cyclable sûre apaise aussi généralement la rue pour tout le monde. Selon les sondages, les piétons s'y sentent plus en sécurité. Le dernier conseil de Jérôme Laviolette s'adresse aux élus qui veulent aménager des pistes cyclables. Consultez et ne lésinez pas sur le porte-à-porte pour plaider votre cause et entendre les préoccupations. L'empathie, c'est important, dit-il. Il faut reconnaître les inquiétudes des gens et mieux communiquer les bienfaits de ces transformations. C'était « L'art de bien vendre les pistes cyclables », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 2 octobre 2025 dans la presse.